Alors, j'aimerais prendre avec vous le livre de Job. On va lire un passage dans Job. Job, chapitre 28. Et on va lire les versets 1 à 12 pour commencer. Job 28.
Tu te souviens qu'il faut...
Oui, c'est bon. Ok. Job 28, et versets 1 à 12. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide et il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ses pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ? Où est la demeure de l'intelligence ? Alors c'est vrai que l'homme a en ceci quelque chose qui est supérieur à l'animal, c'est qu'il sait apprécier ce qui est beau, ce qui est esthétique, voilà, il a un œil artistique, il aime les belles choses, l'or, l'argent, les pierres précieuses, les perles. Alors il y a bien la pie qui a la réputation d'aller prendre ce qui brille, mais à part elle, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui vont aller chercher les pierres précieuses. On va dire, il n'y en a pas. Alors que l'homme, lui, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, dit la parole, les pierres cachées dans l'obscurité. Il va descendre dans les entrailles de la terre pour extraire le rubis, le saphir, le diamant. Il détourne des courants d'eau pour chercher de l'or. Et il en trouve. Vous savez, même en France, on peut trouver de l'or. Dans certains petits cours d'eau, j'ai lu qu'il y avait trois endroits, les Pyrénées, les Cévennes et le massif armoricain. Apparemment, si on cherche bien, on peut trouver des petites paillettes d'or, on ne va pas en vivre, hein, mais il y en a. Et l'homme cherche ce qui est précieux et il le trouve. On a lu, il produit à la lumière ce qui est caché. Mais verset 12, mais la sagesse, où se trouve-t-elle ? Où est la demeure de l'intelligence ? Et c'est vrai qu'on peut creuser, on peut retourner la terre, on peut retourner les montagnes. On ne trouve pas pour autant la sagesse et l'intelligence. Ce n'est pas ça qui nous permettra de la trouver. Et pourtant, elles sont autrement plus précieuses que les pierres, que l'argent ou que l'or. La sagesse et l'intelligence. Regardez versets 13 à 20. Verset 13, « L'homme n'en connaît point le prix. » Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Verset 20, d'où vient la sagesse et où est la demeure de l'intelligence ? Et la sagesse, l'intelligence, ça ne s'achète pas. On ne peut pas, on vient avec de l'argent et puis on repart avec de la sagesse, ça n'existe pas ça. J'ai vu qu'il y avait certaines écoles de personnes très riches, où ils mettaient leur enfant qui était en échec scolaire, parce qu'ils n'avaient pas voulu travailler, en fait. Hein. Et donc, voilà, on espère peut-être que, en payant cher une école, eh bien, on va finalement, eh bien, faire rentrer un peu de sagesse dans son enfant pour qu'il travaille et qu'il obtienne un diplôme. Mais la sagesse et l'intelligence, c'est pas monnayable. C'est quelque chose qui ne s'échange pas contre de l'argent. Alors, on peut développer, hein, essayer de faire croître ce que l'on possède, mais on ne peut pas l'acheter. Et même si c'était possible, combien vaudrait-elle la sagesse et l'intelligence ? Que vaut la sagesse ? Que vaut l'intelligence ? La Bible dit « Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. » Et même les choses les plus précieuses sur la terre, ça ne peut pas rivaliser avec la sagesse et l'intelligence. Regardez la suite. Verset 20, on reprend au verset 22. D'où vient donc la sagesse ? Où est la demeure de l'intelligence ? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent nous en avons entendu parler. Le gouffre et la mort disent nous en avons entendu parler. Pourquoi ils disent ça, le gouffre et la mort ? Parce que l'enfer est peuplé d'hommes et de femmes qui ont refusé la sagesse, qui ont refusé l'intelligence, n'ont pas voulu. Alors, eh bien, dans le gouffre et la mort, on dit, mais voilà, on a entendu parler d'une sagesse qui n'était pas humaine, une sagesse qui était au-delà, et nous, eh bien, on ne l'a pas connue. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on est ici, dans les ténèbres. Alors, d'où vient donc la sagesse ? Où est la demeure de l'intelligence ? Versets 23 à 28. Il dit, c'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. Quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. D'où vient la sagesse ? D'où vient l'intelligence ? Dieu dit, c'est Dieu qui en sait le chemin. C'est moi qui en sais le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. La sagesse et l'intelligence viennent de Dieu. Et il ne faut pas chercher ailleurs, en fait. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est lui qui va accorder ou qui n'accorde pas. Ça paraît peut-être insensé pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais c'est une réalité. C'est Dieu qui accorde ou qui n'accorde pas. Quelque chose qu'on peut vérifier avec plein de passages dans la Bible. Par exemple, Exode 35, et on va lire versets 30 à 33. Exode 35, et versets 30 à 33. Il est dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est Dieu qui a fait ça pour Betsalel. C'est lui qui lui a donné la sagesse et l'intelligence pour faire tout ce qui concernait le tabernacle. Et je peux vous garantir qu'en ce moment, eh bien, on remercie Dieu qui nous aide pour le local, pour faire plein de choses. Hein. C'est lui qui donne la sagesse et c'est lui qui donne les capacités pour pouvoir faire les choses. On est reconnaissant vraiment parce que tout vient de lui. Il y a des ouvriers parfois qui sont incroyables dans la dextérité pour manier leur art. Il y a des artisans, mais c'est formidable leur travail. J'ai connu un menuisier ébéniste hein, qui faisait partie des compagnons. Vous connaissez hein, les compagnons qui travaillent leur art jusqu'au bout. Et lui, il avait un atelier avec des pièces de bois qui dataient de son grand-père. Il avait un cube de chêne de 150 ans. Il avait du merisier de 100 ans. Il avait plein de pièces de bois comme cela. Et il réparait les très vieux meubles, les belles pièces, hein, avec le bois qui correspondait au siècle ou à l'année du meuble. Et il travaillait, mais un artiste, hein, en sorte que c'était parfait. Le meuble était restauré, mais il était impeccable. Je me souviens un jour, j'étais à Limoges, je suis passé devant une vitrine et il y avait les compagnons qui avaient exposé un ouvrage en marqueterie. Et c'était incroyable, incroyable comme on arrive à faire des choses, hein, qui sont belles, qui sont précieuses. Le problème, c'est que on en arrive à penser que la dextérité, cette capacité à pouvoir bien travailler, à réfléchir, à penser, à construire, ça vient de soi. On se dit, mais quand même, j'ai réussi, quoi, j'ai réussi. Et cet ébéniste hein, que je connaissais, il le pensait. Alors certes, ces ouvriers travaillent, hein, ils ont travaillé, recommencé, et c'est comme ça qu'on arrive à maîtriser son art. Mais ils ne voient pas que toute capacité vient de Dieu, et que ce qu'ils ont, c'est Dieu qui le leur a donné. Et il faut jamais l'oublier. C'est fou comme l'homme, il peut se sentir gonflé petit à petit, il se dit, oh, quand même, quoi, hein, ce que j'arrive à faire. La Bible nous enseigne que toute la sagesse et toute l'intelligence, ça vient de Dieu. C'est lui qui accorde ou c'est lui qui n'accorde pas. On lit un exemple dans la Bible, c'est que Dieu a refusé l'intelligence à l'autruche. Dieu lui a refusé l'intelligence. C'est ce que dit la parole, je vous lis le texte. C'est dans Job aussi, mais je vous le lis. L'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Pourquoi l'autruche, elle n'a pas égard à ses œufs? Pourquoi elle les foule aux pieds? Pourquoi elle les abandonne en plein désert, en pleine chaleur? Parce que Dieu lui a refusé la sagesse. Dieu ne lui a pas donné cet instinct maternel et ce désir de prendre soin de sa future progéniture. Il l'a créée bête. Pourquoi Dieu l'a créée bête? Dieu l'a créée bête pour nous montrer que c'est lui qui donne ou ne donne pas. Et s'il ne veut pas donner, il ne donne pas. Dieu nous montre cela au travers de l'autruche. Il décide dans sa souveraineté. Vous vous souvenez probablement de l'histoire de Daniel. Donc avec ses compagnons Anania, Michaël et Azaria. En Daniel 1, 17, on lit ce verset. Daniel 1, 17, il est dit, « Dieu accorda à ces quatre gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et puis un petit peu plus bas, au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. » Et on voit ces quatre hommes étaient supérieurs en sagesse et en intelligence parce que Dieu leur avait donné. C'était la grâce, hein, Dieu leur avait donné. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait le choix de vivre pour Dieu. Ils vivaient de tout leur cœur pour Dieu. Alors Dieu les bénissait en les rendant 10 fois supérieurs à tous les autres sages du royaume. Est-ce que vous, parfois, vous n'avez pas le sentiment de manquer de sagesse? Est-ce que vous avez parfois, vous dites, j'ai pas fait les choses comme il faudrait. Ça arrive, hein, on se dit tout ça. Et c'est vrai que parfois on se sent bête. Hein. On se sent bête d'avoir agi de telle ou telle manière. Ou bête de n'avoir pas fait telle ou telle chose que nous aurions pu faire. Parfois on s'en veut parce qu'on a raté une occasion. Et ça se représentera pas. Terminé, probablement pas. Ou bien on a le sentiment qu'on n'a pas bien géré notre vie telle qu'on aurait dû le faire. et on se sent démuni, on se sent sans sagesse. Mais si ça vous arrive, eh bien, il y a de l'espérance. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui donne la sagesse et c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est lui qui le fait. Et encore un exemple, c'est celui de Salomon. C'est peut-être l'exemple le plus célèbre, même le monde connaît cet exemple, hein, qui se retrouve devant une responsabilité, tout ce peuple nombreux, et lui c'est un jeune homme. Et comment je vais gérer tout ça ? Et Dieu eh bien, lui accorde de pouvoir recevoir quelque chose. Hein, que veux-tu ? Et plutôt que de demander sagesse, plutôt que de demander la richesse, il va demander la sagesse. Hein. Il va demander l'intelligence pour pouvoir gérer ce peuple nombreux. Et Dieu lui a répondu, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Et Dieu a accordé à Salomon de la logique, de la capacité de raisonner, de l'intelligence, de la compréhension, l'analyse, la sagesse, pour savoir eh bien, comment bien agir avec le peuple d'Israël. Et je trouve que c'est vraiment rassurant pour nous, parce qu'on a besoin sans cesse de cette sagesse, on a besoin de cette intelligence. Hein. On est sans cesse confronté à des choix. Et quelles que soient nos responsabilités, peut-être une évolution professionnelle, un travail que nous n'avons jamais fait, ou bien des difficultés qui sont devant nous, des problèmes, des choses qui nous dépassent, eh bien on peut dire, Seigneur, j'ai besoin que toi tu éclaires, hein, que toi tu donnes la sagesse que je n'ai pas. Quand on était un croyant, eh bien on n'avait que notre capacité propre. Si vous vous remettez un peu en arrière, quelques années en arrière, quelques décennies pour certains, celui qui ne connaît pas Dieu, eh bien, il ne peut compter que sur lui-même, que sur ce qu'il possède aujourd'hui. Alors, il peut bien sûr essayer de faire fructifier et développer le raisonnement, l'intelligence. Hein, c'est pour ça qu'on va aussi à l'école. On peut demander conseil, mais on ne peut pas recevoir gracieusement, comme ça, plus d'intelligence et plus de sagesse. Ça ne se fait pas, ça. Ça ne se fait pas. Dieu dit à ses enfants, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Avec Jésus, on a un appui. On a un aide, une aide, un recours. On n'est pas démuni. C'est de lui que viennent la sagesse et l'intelligence. Et Dieu nous a laissé des promesses merveilleuses, comme dans Jacques, chapitre 1 et verset 5, que certains connaissent probablement par cœur. Jacques 1, et verset 5, il dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. » En fait, il suffit de venir chercher auprès de Dieu. « Seigneur, j'ai besoin de sagesse. S'il te plaît, donne-moi de la sagesse. » Avec simplicité, on lui demande et Dieu dit « Cela vous sera accordé. » Il poursuit, versets 6 à 8, il dit, attention, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et il y a une condition pour recevoir la sagesse, c'est la foi. Il faut croire, il faut demander et le croire. La promesse, elle est là devant nous. C'est sûr, c'est certain. Dieu dit, demandez et je vous la donne. Mais ne doutez pas. Seigneur, je ne sais pas comment je vais solutionner ce problème. Je ne sais pas comment faire. Aie pitié de moi. Donne-moi de voir clair. Donne-moi de comprendre, de savoir le faire. Aide-moi de droite ou de gauche et que je sache. Eh bien, si on le fait, Dieu nous donnera ce qui nous manque. Il le promet. Dieu veut augmenter la sagesse lorsque nous en manquons. Et puisqu'il fait la promesse, eh bien on n'a pas le droit de douter. Il faut demander et le croire, tout simplement. Et puis on continue, on avance, et Dieu le fait. Et le propre de l'homme, ah oui, je voulais une autre pensée, c'est que parfois la sagesse, On se dit, voilà, je ne sais pas, je demande à Dieu, elle va me tomber comme ça. Alors, elle peut, hein. Des fois, Dieu éclaire. Et souvent, c'est le cas. Il donne de cette manière. Mais aussi, parfois, eh bien, il va donner au travers d'un conseil de quelqu'un qui va venir. Moi, je vous dire, j'étais un peu angoissé face au carrelage à poser. Je me suis dit, oh là là, tu as posé 4 mètres carrés, comment tu vas poser 140 mètres carrés? Donc, ça me faisait peur, hein. Mais bon, on croit, on prie, on demande. Et puis, par François, voilà, j'étais super heureux d'avoir les conseils d'un vrai carreleur qui n'avait rien à gagner puisqu'il est à la retraite, hein, et qui a pu me donner, voilà, tous ces conseils. Tu fais comme ça, tu fais comme ci. Et ben après, j'étais détendu. Je me suis dit, oh bon, c'est bon, j'ai les directives, je sais comment faire. Je sais suivre. Et parfois, vous savez, la sagesse, hein, elle vous vient des autres. Hein. Faut savoir écouter. Il est dit, le salut vient du grand nombre des conseillers. Le salut vient du grand nombre des conseillers. Et parfois, eh bien, Dieu veut vous donner la sagesse, mais par le biais des autres. C'est pour ça qu'on a besoin aussi des autres, qu'on a besoin du corps de Christ, qu'on a besoin de l'Église, et qu'on a besoin d'être attentif à la voix de Dieu au travers des autres. C'est très important. Et le propre de l'homme, c'est qu'il est constamment devant des choix. Dès qu'on se lève le matin, il faut choisir. Alors, des fois, il y a des choix. Vous me direz, c'est pas très important, comme par exemple, qu'est-ce que je vais me mettre ce matin? Enfin, quoique, pour certains, c'est très important. Qu'est-ce que je... Voilà. Mais il y a des choix aussi, parfois, qui changent le cours de la vie. Des choix qui sont, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques ou merveilleuses. Il y a des petits choix et il y a des grands choix. C'est pas grave si on n'a pas mis le bon vêtement un jour. Mais si on a pris un virage qui ne nous permet pas de faire demi-tour, ben là c'est grave, c'est très grave. Et on a besoin vraiment que Dieu nous garde. Hein. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la demande à Dieu. Elle est là, la sagesse, elle est à notre disposition, Dieu veut nous la donner. À la fois pour des petites décisions, vous savez, parfois, juste une petite décision, on a besoin, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il vaut mieux que je fasse ça aujourd'hui ou bien que je fasse ça? Des fois, on se dirait que ce n'est pas important. Ben si, parfois si, c'est important. Simplement de faire les bonnes choses, les bonnes journées, au bon moment. Et puis, ben, Dieu, bien sûr, veut nous aider, et surtout pour les grandes décisions de la vie. Et c'est le privilège de tous les croyants de pouvoir crier à Dieu et de recevoir son secours. On peut remarquer Betsalel, Daniel, Anania, Michaël, Azaria, Salomon, c'était des croyants. Ils croyaient et ils recevaient. Parfois en demandant, parfois gracieusement, ils recevaient. Mais ils avaient foi en Dieu. Pourtant, bien sûr, c'est évident aussi que dans un monde qui ne croit pas en Dieu, il y a de l'intelligence, il y a de la sagesse. Hein, il y a de la sagesse humaine, il y a de l'intelligence dans le cœur des hommes. Même parfois, on va trouver plus de bon sens chez quelqu'un qui ne croit pas en Dieu que... chez quelqu'un qui a foi. Mais peut-être parce qu'il ne marche pas avec le Seigneur. Donc on va trouver plus de bon sens chez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et beaucoup, bien sûr, sont parfois plus vifs, plus doués, plus intelligents que beaucoup de croyants. Mais là encore, on n'est pas exempt de cette vérité, c'est que la sagesse et l'intelligence viennent de Dieu. C'est toujours Dieu qui donne. Et ça reste quelque chose qui vient d'en haut. Même les incroyants l'ont reçu de Dieu, quand bien même ils ne veulent pas toujours le reconnaître. Si l'autruche, Dieu a choisi de ne rien lui donner, il a choisi d'en donner beaucoup à l'homme. Et l'humanité, tous les hommes, peuvent raisonner, peuvent étudier, réfléchir, comprendre, analyser, prendre des décisions en fonction de ce qu'ils ont compris, voilà, et mûrir aussi, hein, c'est mûrir en sagesse. Hein. On est tous pourvus d'intelligence, de sagesse humaine. Et même, c'est une responsabilité. Hein. Chacun devrait développer ce qu'il a, ses capacités. C'est notamment par l'école, par l'étude, par le travail. Et puis aussi par les années. Logiquement, avec les années, on doit mûrir aussi en sagesse. Mais si Dieu donne de la sagesse et de l'intelligence naturelle, ce n'est pas sans raison. C'est pas pour le plaisir de l'homme, simplement pour lui-même, pour se gargariser et penser que, voilà, peut-être il fait partie de l'élite. Non, Dieu le donne pour qu'il le cherche et qu'il le connaisse. Dieu nous donne ce raisonnement et cette capacité pour qu'on cherche Dieu, le Créateur, et qu'on le rencontre, qu'on ait une communion avec lui, un contact avec lui. Et si l'homme ne se sert pas de sa sagesse et de son intelligence naturelle pour rencontrer Dieu, le glorifier, le remercier, eh bien, il se rend coupable de mépriser celui qui lui a tout donné. Tout à l'heure, on a chanté, c'est lui qui donne la vie, le mouvement et l'être. On existe par lui. C'est de lui qu'on reçoit tout. Celui qui rejette Dieu, alors il se rend coupable. Regardez ce que dit Romains 1, verset 18 à 22. Romains 1, verset 18 à 22. Il est dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et on voit que l'intelligence naturelle nous est donnée pour rencontrer Dieu. Pour le rencontrer, le glorifier, il est dit, le louer. Et on le voit, il dit, hein, Dieu le leur ayant fait connaître par la création, Dieu s'est fait connaître à tous les hommes. Il suffit de regarder autour de soi, on voit les perfections invisibles de Dieu. C'est évident, la nature est parfaite, il y a toute une symbiose, un équilibre, chaque animal est à sa place, et chaque chose est essentielle à l'équilibre de l'ensemble. Et c'est fou pourtant de voir certains scientifiques qui s'émerveillent de voir des choses si bien faites, et qui pourtant ne voient pas celui qui a fait les choses derrière, et disent « mais c'est pur hasard ». C'est pur hasard. Tout est parfait et prouve qu'il y a un créateur parfait. Par les éléments qui bougent, par la nature, par le tonnerre, la mer qui devient impossible à maîtriser pour l'homme, on voit la puissance éternelle. On le voit encore dans l'espace, que Voltaire appelait une horloge. Les astres tournent magnifiquement. Alors on attribue cette phrase à Voltaire, « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Et ça résume bien, quand vous regardez l'univers, voilà, tout est parfait. La distance du soleil de la Terre, la Lune également, chaque astre a sa fonction justement pour permettre la vie sur cette Terre. Ça résume bien cette vérité, il y a un horloger. Si vous trouvez un objet qui est utile, n'importe quoi, on va prendre un robot ménager par exemple, vous ne pouvez pas penser qu'il est arrivé comme ça, spontanément. Et vous vous tournez vers la vie, vers l'homme, vers des choses qui sont beaucoup plus complexes, et vous dites, c'est arrivé par hasard. C'est un non-sens. Et c'est une évidence que toute la création révèle qu'il y a un horloger qui a tout mis en place, qui a tout réglé. On voit la création, par la création on voit sa divinité. Il ne peut pas ne pas y avoir un créateur. Et le nier, c'est s'opposer de front à Dieu qui a créé toute chose. Alors Dieu dit, ils sont donc inexcusables. Si on rejette Dieu, on est inexcusable. Car ayant connu Dieu par la création, On ne l'a point glorifié comme Dieu, on ne lui a point rendu grâce. Alors Dieu dit, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'intelligence. Ils ont une intelligence à l'origine. Mais ils l'ont eue, comme ils ne veulent pas en faire un bon profit, alors Dieu les plonge dans les ténèbres. Et en les plongeant dans les ténèbres, c'est terrible. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des gens très intelligents qui vont se perdre dans un raisonnement qui est erroné, complètement faux, parfois qui ne tient pas la route. Mais ils sont dans un aveuglement, dans des ténèbres, parce qu'ils n'ont pas voulu voir l'évidence. Il dit, Dieu dit, leur cœur est sans intelligence, il a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et c'est comme ça qu'il y a des scientifiques de haut vol qui refusent de voir l'évidence de la création. Et donc il faut bien utiliser ce que Dieu nous donne. Il y a quelques années, peut-être, ils ont fait un Science et Vie avec un titre accrocheur, hein, toujours des titres accrocheurs, où ils expliquaient que finalement la foi en Dieu ne disparaîtrait jamais. Je ne me souviens plus du titre, hein, mais la foi en Dieu ne disparaîtra jamais. Quand vous lisez un Science et Vie avec ce titre, la grosse question. Hein, et en fait, eh bien, certaines personnes... certains scientifiques avaient déterminé que finalement la foi n'était qu'une réaction chimique dans le cerveau. Et donc, alors ils disaient que c'était une production de sérotonine qui favoriserait le mysticisme et la religiosité, et voilà, la foi. Comment on peut réduire la foi en Dieu à simplement une réaction chimique ? Une réaction chimique. Et ça séduit, vous savez, pour un esprit scientifique, c'est séducteur. Ils se disent, ah ben voilà, ça y est, j'ai compris. C'est simplement, s'il y a, je ne sais pas combien, mais s'il y a plus des deux tiers de la Terre, même beaucoup plus, hein, qui a une foi, qui a une recherche de Dieu, et certains qui disent qu'ils le connaissent, qui ont une relation personnelle avec lui, c'est simplement une réaction chimique dans le cerveau. Tout ça n'est que du vent. Et nous, on est un petit groupe là qui ne croit pas, mais on a trouvé. Et c'est un jugement qui tombe. C'est les ténèbres. Parce que, évidemment, ceux qui publient ces choses, ce n'est pas des idiots. C'est des gens qui nous dépassent. Hein, qui nous dépassent. Hein. Ils ont un QI très important. Mais leur cœur est plongé dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas voulu... Eh bien, utiliser leur intelligence à bon escient. Alors, ils passent à côté de Dieu, ils ne le voient pas et ils ne peuvent pas le connaître. Ainsi arrive ce que Dieu dit. Dieu a dit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Donc, c'est des intelligents, c'est des sages. Mais il dit, je vais la détruire. Ils auront, on les regardera comme sages et intelligents, mais la réalité, c'est qu'ils ne le seront pas. Dieu dit, je détruirai tout ça. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dieu a choisi des choses simples pour les amener vers lui. La Bible dit qu'en Jésus-Christ résident tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Jésus, il y a toute la sagesse. Forcément, il est le Créateur. C'est lui qui était là au commencement. Hein? C'est lui qui a créé. C'est lui. Jésus est la sagesse incarnée, étant le Créateur, qui s'est fait homme pour nous sauver. Mais qu'est-ce qui se passe quand on rejette Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe quand on se dit, oh, ben, c'est juste certainement quelqu'un d'historique, qui a existé il y a 2000 ans. Mais bon, voilà, c'était un illuminé d'il y a 2000 ans. Qu'est-ce qui se passe quand on rejette Jésus-Christ? On rejette la sagesse de Dieu. et on passe à côté de cette sagesse. Et l'œuvre de la croix, Jésus-Christ crucifié pour nos péchés, eh bien ça reste une vérité cachée, une vérité qu'on ne comprend pas, obscure, c'est, voilà, étouffé. Le pardon, la réconciliation avec Dieu, c'est inatteignable. On reste dans les ténèbres. Parce qu'ils refusent Christ, alors eh bien la sagesse qui vient de Dieu ne leur est pas donnée. Quand j'ai lu notre passage de Job chapitre 28, j'ai été frappé par le verset qui le termine. On va reprendre Job 28, verset 28. Job 28, verset 28. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et c'est quelque chose de surprenant que Dieu lie la crainte de sa personne à la sagesse. Et l'éloignement du mal à l'intelligence. On peut certes augmenter son QI en travaillant, en faisant des exercices, en étudiant, en réfléchissant. Mais si on ne cherche pas à craindre Dieu et à s'éloigner du mal, eh bien on passe à côté de la sagesse qui vient de Dieu et de l'intelligence qui vient de lui. Et on est en danger. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si l'homme ne commence pas par cela, alors il ne peut pas prétendre à la sagesse ou l'intelligence. Et il y a une menace, c'est de devenir fou. De devenir fou. C'est surprenant parfois, vous voyez des sectes complètement ridicules. Des choses, une grande statue colorée, ils tournent autour, des choses folles. Et vous allez voir des gens très intelligents qui sont embarqués dans ça, qui ont fait des années d'études, qui sont... Voilà. Et pourtant, comment c'est possible? Comment c'est possible? Voilà, on devient fou. Et la sagesse naturelle, vous savez, celle qu'on reçoit de Dieu, et l'intelligence, eh bien, si on ne la cherche pas pour Dieu et à craindre Dieu, eh bien, ça peut nous perdre. Ça peut nous perdre complètement. On peut dire des absurdités en disant, mais c'est la sagesse même. Alors que celui qui craint Dieu, qui ne veut pas pécher, eh bien, lui, il se place dans une situation où il est plus en sécurité. S'il est attentif, il cherche Dieu, alors Dieu va lui donner de voir et de voir davantage. On donnera à celui qui a. C'est-à-dire, si vous cherchez, Dieu vous donnera davantage. Vous voulez plus de lumière, Dieu vous donnera plus de lumière. Il faut avancer et Dieu vous donnera. Chercher Dieu, craindre Dieu, s'éloigner du mal. Si on veut ce qui est plus précieux que les perles, plus précieux que l'or et l'argent, alors il faut craindre Dieu et s'éloigner du mal. Parfois, on se dit aussi que la sagesse vient avec le temps. Et souvent, quand on prend de l'âge, on se dit « Ah ben, j'aimerais bien avoir la force des 30 ans et puis la sagesse de l'âge mûr que je pourrais avoir aujourd'hui. » Avoir les deux ensemble, hein, plein d'énergie et plein de sagesse. Ça serait bien, ça, hein. Élihu a dit quelque chose à Job qu'on peut lire ensemble. Job 32, verset 6. Job 32, verset 6. Et Élihu, fils de Barakel, de Buz, prit la parole et dit « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. » Donc c'est Élihu qui parle aux trois amis, entre guillemets, de Job. Il dit « C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. » Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Et c'est quelque chose qui s'est vérifié avec Daniel et ses compagnons. C'était des jeunes hommes qui étaient sans expérience, mais qui étaient plus sages que tous les sages du royaume, les vieux sages du royaume. Et il dit, c'est l'Esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence. La chose la plus importante pour posséder la sagesse, c'est donc craindre Dieu et obéir. Qu'importe si on est jeune, c'est pas ça qui est important. Qu'importe aussi peut-être les années que nous avons perdues. Qu'importe si on se dit « mais je suis démuni en sagesse naturelle, en intelligence ». Qu'importe peut-être les erreurs du passé, parce que parfois, voilà, on s'est planté, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Qu'importe si on a pris aujourd'hui encore une mauvaise décision ou direction, on sera capable de faire les bons choix demain, on sera capable de les faire jour après jour, on va prendre la bonne orientation dans notre vie, on va agir avec sagesse, on sera gardé si on prend la décision de craindre Dieu et de s'éloigner du mal et de dire « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux m'approcher de toi et que toi, tu redresses ma vie s'il y a besoin. Que toi, tu me donnes davantage et que tu m'aides à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions dans ma vie. » C'est quelque chose qui est valable pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Est-ce que vous êtes sauvé ? Est-ce que vous avez cru en Jésus-Christ ? Vous savez, ce n'est pas une religion qu'on reçoit de ses parents. Et puis après, on se dit « Ah ben, moi, je suis chrétien parce que mes parents étaient chrétiens, mes grands-parents étaient chrétiens, et mes arrière-grands-parents étaient chrétiens, et mes futurs enfants seront chrétiens. » Non, c'est un choix personnel. C'est une décision que l'on prend une fois qu'on est avec un âge suffisamment mûr pour le faire. C'est la décision de comprendre, comme disait François tout à l'heure, « Je ne peux pas me sauver moi-même. » Je ne peux pas me racheter, je ne peux pas essayer de faire mieux, je n'arriverai jamais à être parfait. Donc je suis pécheur, je suis perdu. Que faire ? Jésus-Christ est mort pour vous. Jésus-Christ a donné sa vie pour vous. Il a versé son sang et il a été frappé à votre place. Il a subi votre condamnation pour que Dieu puisse vous dire « Je te pardonne ». Viens à moi, demande pardon et je te pardonne tous tes péchés. Crois en moi et je te sauve. C'est ça, capituler. C'est plier le genou et dire, j'ai besoin, je suis perdu. Je manque de sagesse, d'intelligence. Donne-moi ce que je n'ai pas. Sauve-moi. Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Là, Dieu nous donne son esprit, le souffle du Tout-Puissant. C'est lui qui donne l'intelligence. Dieu nous donne le souffle du Tout-Puissant, esprit de force, d'amour et de sagesse, dit la parole de Dieu. C'est le même, vous savez, c'est le même esprit qui était en Jésus-Christ, où il est dit dans la parole esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force. Croyez, donnez-vous à lui et obéissez à lui. Craignez Dieu et il vous donnera la sagesse et l'intelligence dont vous avez besoin. On va avoir un moment de